Ça marche, parfait. Voilà, alors, je vais reprendre, bien sûr, ces deux textes, enfin, ces textes d'écriture et puis le texte de Dieverboom, et puis je vais rajouter un chapitre que vous n'avez pas travaillé dans les textes, qui sont l'explication des fameux quatre sens de l'écriture, et qui permettent, du coup, une vue d'ensemble sur l'interprétation des écritures. Donc, le premier point, Dieu est l'auteur des écritures. Voilà, donc ça c'est ce qu'Éphésiens, le Concile Vatican II nous dit, Dieu est l'auteur des Écritures. Et en même temps, les auteurs, les hagiographes, donc ça veut dire les hagiographes, c'est-à-dire les écrivains saints, ça veut dire ils ne sont pas forcément canonisés, mais c'est les écrivains qui ont travaillé sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Cette inspiration de l'Esprit Saint, c'est un processus unique qui ne se révélera pas, qui ne se renouvellera pas dans l'histoire. Un processus unique mais long, qui va commencer, on va dire, c'est difficile de dire exactement, bien sûr, mais disons, en moins 900 avant Jésus-Christ, donc c'est la période salomonique, enfin davidique, salomonique, puis en fait, c'est le début de la période royale, qui est une période de grand développement culturel d'Israël, jusqu'à plus 100, les derniers écrits de Jean, voilà. À peu près. Donc ce processus, c'est une action de l'Esprit-Saint qui est spécifique. Pour l'action de l'Esprit-Saint dans l'Église depuis, on a un autre terme qui est celui-ci, assistance de l'Esprit-Saint. On lit les Écritures avec l'assistance de l'Esprit-Saint. Mais personne aujourd'hui n'est inspiré par l'Esprit-Saint pour écrire un nouveau chapitre du livre de Saint Jean. Voilà. Même pour des écrits qui ont été tellement extraordinaires, je pense à Thomas à Kempis qui a écrit ce qu'on appelle le cinquième évangile et qui est tellement, c'est vrai que c'est extraordinaire, et dont j'ai oublié le nom, L'imitation de Jésus-Christ, voilà, merci. Alors je vous avais eu ça chez vos arrière-grand-mères dans les placards, mais à l'occasion, ouvrez-le, même lisez-en une traduction moderne, car c'est un livre vraiment extraordinaire que j'ai eu la chance de lire quand j'étais lycéen et qui a été vraiment très fondateur dans ma vie. Après, donc on l'appelle le cinquième évangile à cause de son niveau extraordinaire et de sa simplicité. Voilà, mais c'est une manière de dire. Personne n'a jamais pensé que c'était effectivement sous l'inspiration de l'Esprit Saint que Thomas à Kempis avait écrit l'imitation de Jésus-Christ. L'inspiration de l'Esprit Saint, c'est un terme très technique qui veut dire que des auteurs ont écrit ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient touché, contemplé, mais surtout ce qu'on leur a raconté, mais encore ce qu'ils ont relu, donc le texte qui était déjà écrit, qu'ils ont relu à la lumière de nouveaux événements qui vont leur faire voir sous un nouveau jour des événements passés. Alors pour parler en clair, c'est très marquant notamment sur l'événement fondateur qui est l'Exode. L'événement de l'Exode va engendrer une partie du livre de l'Exode et le livre de la Genèse, qui sont en fait deux livres qui sont en miroir l'un avec l'autre et qui ont été écrits au même moment, probablement par les mêmes équipes de rédacteurs. Et puis donc l'Exode, c'est 1200 à peu près avant Jésus-Christ. Puis vient un autre événement qui va complètement bouleverser Israël, c'est l'exil à Babylone en 600 à peu près, en 587 exactement, qui va durer 50 ans, où le temple est détruit et Israël est occupé. Et donc, donc il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de présence de Dieu dans le temple. Où est Dieu ? Et ils vont le redécouvrir, Dieu, en quelque sorte, dans le peuple et dans les Écritures, ce qui va complètement changer leur rapport aux Écritures, au peuple, à leur histoire. Et donc ils vont relire leur propre histoire, notamment l'Exode, avec de nouvelles lunettes, si j'ose dire. Et puis ensuite ils vont se réinstaller à Jérusalem avec une période dite sacerdotale où le culte va reprendre, forte de cette expérience de l'exil. Et donc ça va donner une réécriture de la Genèse et de l'Exode dont nous avons les traces très claires et qui ont été mises à jour par l'exégèse historico, pas hystérico encore que parfois, c'est un peu hystérico-critique, mais on va dire historico-critique, où les passages les plus connus, ce sont les deux récits de la création, et puis les deux récits de l'Exode, où dans une première phrase on dit un fort vent d'est poussa la mer des joncs, du lac des joncs, et les Hébreux passaient à travers. Donc ça vraiment c'est un un récit historique, c'est le plus ancien, et puis une relecture ensuite post-exilitique, où on comprend que ce miracle naturel, si j'ose dire, enfin, qui est le fait de l'action de Dieu, mais qui est par des voies naturelles, eh bien, signifie en fait pour Israël la traversée de la mort pour entrer dans la vie. Et donc, le verset suivant, ils disent « Et Israël passera au milieu de la mer, la mer était à droite et à gauche comme un mur immense. » Donc on voit bien que ce n'est pas un récit historique, ce n'est pas un mur immense, mais on comprend, c'est une relecture pour nous dire effectivement, ils étaient passés par la mort. Ils étaient passés par quelque chose qu'on ne peut pas franchir. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une relecture théologique, en quelque sorte, par une image symbolique, la mer qui est à droite, à gauche, comme deux murs. Mais cette image symbolique dit une compréhension nouvelle, théologique, de l'événement de l'Exode pour Israël. Et c'est vrai pour un certain nombre d'événements. Bon, celui-là est le plus central. Voilà, donc, un texte écrit entre moins 900 et plus 100, pour l'ensemble des textes de Bible juive et chrétienne, par des hommes et des femmes, de chair et d'os, qui ont écrit, qui ont réfléchi, qui ont écrit, des équipes d'hommes et de femmes, qui ont écrit, des communautés qui ont écrit, et puis des relectures du texte qui ont été écrites. Par exemple, Saint Jean a deux introductions de mémoire et trois conclusions au moins. Et en fait, ce sont des conclusions qui sont comme des couches surajoutées. Voilà. Et alors, il y a une unité de l'ensemble du texte qui certainement est portée par Saint Jean lui-même, mais qui a été augmentée, relue par sa communauté immédiate ou ses successeurs immédiats. Voilà. Alors, tout ce petit monde, ce sont des hagiographes, c'est-à-dire des personnes qui ont agi sous l'action de l'Esprit-Saint. Alors vous allez me dire, bah, pff, tout ça c'est quand même pas très divin, ça fait un peu bricolage, un peu incertain. Puis d'ailleurs, dans le texte de la Bible, on voit bien, il y a des passages corrompus, des phrases interrompues, des choses comme ça. Ça fait pas très très sérieux, si Dieu est l'auteur quand même, il aurait pu un peu nettoyer tout ça. Alors, je vais vous lire un petit extrait que je trouve très éclairant dans le tour de Dei Verbum, mais que vous n'avez pas. C'est Dei Verbum 13. Donc, dès que vous aurez acheté votre... Ben, vous l'avez peut-être déjà, d'ailleurs, mais... votre exemplaire, vous pourrez aller voir par vous-même. Mais je sais que vous avez déjà fait des travaux hein, sur le Concile Vatican II avec le Père Laloux, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, beaucoup d'entre vous avaient certainement le texte chez eux. Donc, écoutez bien, je trouve ça très éclairant. Dans la Sainte Écriture, la vérité et la sainteté de Dieu, restant toujours sauves, se manifestent dans la condescendance merveilleuse de la sagesse éternelle pour que nous apprenions l'ineffable bienveillance de Dieu et à quel point aussi, dans ses soins prévenants pour notre nature, il a adapté son langage. En effet, les paroles de Dieu passant par les langues humaines, et je rajouterai par l'imperfection des langues humaines, par l'imperfection de l'histoire, l'imperfection des lectures et des relectures, de la mémoire humaine, l'imperfection des hommes eux-mêmes, les aléas de l'histoire d'Israël, à travers toutes ces choses-là, eh bien, passant par les langues humaines, ont pris la ressemblance du langage des hommes. De même que, jadis, le Verbe éternel du Père, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Vous voyez, il fait une comparaison entre ce texte corrompu, imparfait d'une certaine manière, d'un point de vue littéraire, encore que souvent d'une très très grande qualité, mais et puis surtout fabriqué sur 1000 ans et à travers toutes sortes d'aléas, il fait parallèle avec le corps du Christ, qui lui-même a dû avoir un jour un limbago, devait manger tous les jours et dormir, était épuisé par ses nuits de prière et s'endormait dans la barque, alors la même qu'il y avait une tempête, ce qui en dit long sur son état de fatigue, etc., etc., etc. Vous voyez, voilà. Donc ne soyons pas effrayés de ça. C'est le processus de l'incarnation, d'une certaine manière, qui s'engage déjà, dès moins 900, dans ce Dieu qui se donne dans une langue imparfaite, en quelque sorte. Et voilà, une première couche. Alors, ensuite... Alors, il y a les textes de la Bible et puis il y a ceux qui ne sont pas de la Bible. Donc, ce qu'on appelle notamment les écrits apocryphes. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, bien sûr, les apocryphes du Nouveau Testament, mais il y a aussi les apocryphes de l'Ancien Testament qui sont considérables et qui sont souvent intéressants dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ils sont beaucoup moins intéressants, mais dans l'Ancien, ils sont souvent intéressants. Alors, pour ceux qui n'en ont pas seulement entendu parler, mais qui ont pu lire l'évangile de saint Thomas ou des différents écrits comme ça, géographes, il suffit de passer une demi-heure à les lire et puis on comprend tout de suite. On se dit, il n'y a pas besoin de rassembler un concile pour voir la différence. Ce sont des livres pleins de merveilleux, de miracles extraordinaires, de merveilleux, etc. Donc on se dit que finalement le discernement n'a peut-être pas été si difficile à faire. Pour l'Ancien Testament, ça peut être plus difficile parce que les Juifs n'ont pas reconnu tous les textes de l'Ancien Testament qui étaient reconnus par l'Église catholique, notamment les textes les plus tardifs, et parfois parmi les plus beaux, à mon sens, notamment le Siracide, qui est une relecture d'un héritage de son grand-père et qui nous livre comme une méditation d'un juif d'Alexandrie, qui est magnifique, que nous reconnaissons inspiré par Dieu, donc vraiment parole de Dieu, mais que les Juifs ne reconnaissent pas comme tel. Mais donc le canon de la Bible va grosso merdo, se fixer en 200 après Jésus-Christ, mais il va y avoir des petits aléas, des petites questions qui vont courir jusqu'au Concile de Trente au XVIe siècle. C'est le Concile de Trente qui va définitivement fixer. Mais n'allez pas croire que c'était le grand bazar jusqu'au XVIe siècle. Pas du tout. Le canon est fixé à 99,9% en 200 après Jésus-Christ, mais il y a eu des petites contestations légitimes. D'ailleurs, par exemple, la finale de Saint-Marc, on voit bien que ça n'a pas été écrit par Saint-Marc, c'est un autre style, c'est une sorte de résumé de toutes les apparitions. Bon, est-ce qu'on peut considérer ce texte-là comme inspiré vraiment par Dieu, ou comme un rajout qu'il faut mettre à côté, vous voyez ? Bon, ce genre de choses ont dû être tranchées, et ça a pris un petit peu de temps. Mais c'est quand même très à la marge. Alors j'ai mis lire Dei Verbum 11, donc il faut que je le fasse. Oui, donc ça c'est le petit texte que vous avez lu déjà, qu'on peut relire. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, donc c'est un terme très technique ça, donc vous avez maintenant compris ce que ça veut dire. C'est une action spécifique de l'Esprit-Saint qui fait que les auteurs écrivent la parole de Dieu. Et on va voir après comment ça marche. Ils ont Dieu pour auteur. Donc, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Un extrait du livre de Lévitique n'est pas moins parole de Dieu qu'un extrait de l'Évangile selon saint Jean. Ça, il faut vraiment bien l'intégrer. Alors, les hagiographes. Alors, néanmoins, donc c'est bien le Dieu qui est l'auteur, mais les hagiographes ont écrit en vrais auteurs. Une des clés, je pense, d'Emmaüs, vraiment, j'essaie de vous montrer pourquoi. Ça peut vous paraître bizarre, hein, mais ce n'est pas les techniques de communication ou de tractage dans la rue pour enjoindre des gens qui sont loin de l'église. Une des clés profondes, si vous voulez, des ressorts profonds, c'est ce que je vais dire maintenant. C'est-à-dire que ce que Dieu veut dire dans les Écritures, son intention, ce qu'il veut nous transmettre, est contenu dans ce que veut nous transmettre l'auteur humain du texte. Voilà. Ça, c'est vraiment la clé. Du coup, ça a du sens de déployer de l'énergie, du temps, pour bien comprendre quelle est l'intention de l'auteur humain du texte. Parce que l'enjeu est considérable. C'est bien ce que Dieu veut nous dire. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. C'est mis en pause. C'est joli. Alors là, je vais vous lire tout de suite donc ce que vous avez lu, mais c'est bon qu'on le réentende, parce que le concile parle mieux que moi. Donc, cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, anticipant l'incarnation d'une certaine manière, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, c'est-à-dire vous, moi, pour voir clairement ce que Dieu a voulu nous communiquer, c'est ça le but, voir clairement ce que Dieu a voulu nous communiquer. On sait très bien qu'on fait dire n'importe quoi à n'importe quel texte, quasiment, enfin qu'il y a un vrai risque de mauvaise interprétation. Cherche avec attention ce que les hagiographes, c'est-à-dire les gars et les personnes, les femmes qui ont écrit, ont vraiment voulu dire. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment ? C'est ça qu'il faut toujours chercher. Et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Il faut en conséquence que l'interprète cherche le sens que l'hagiographe, en des circonstances déterminées, avant, après l'exil à Babylone, par exemple, dans les conditions de son temps. Ah ben, Jésus avait des frères. Ben oui, mais à son époque et là où il vivait, tous les cousins étaient des frères. Donc ne mettons pas Martel en tête avec cette histoire. On laisse ça, bon, je ne dis pas à qui, parce que je vais me faire gronder encore une fois. Dans les conditions de son et sa culture, là c'est pareil, il y a des sémitismes, des expressions sémitiques qu'il faut connaître, qui sont généralement dans les notes, mais qu'il faut lire. Ça évite de faire des interprétations aussi un peu à côté. Employant les genres littéraires en usage. Ben évidemment, le genre apocalyptique, ce n'est pas le genre historique. Un récit d'une histoire n'est pas un discours, etc., etc. C'est sûr que si on trouve, vous trouvez de la philosophie dans Mickey Parade, on va avoir du mal. Et si on veut se distraire en lisant Michel Onfray, on va avoir du mal aussi. Donc, en fait, il faut lire le texte pour ce qu'il est, c'est-à-dire selon son style, son genre. Voilà, et on peut beaucoup se distraire en lisant Closer, et on peut s'instruire en lisant Onfray, paraît-il. Alors, en tant que fait exprimer, il ne faut pas pour découvrir exactement le sens des textes sacrés. Voilà, alors, en fait, le fait de lire les notes, de lire les introductions bibliques, de lire un commentaire, par exemple, d'écriture, de quelqu'un qui a fait un travail de fond sur le texte, un vrai scientifique, je veux dire, quelqu'un qui a vraiment travaillé, eh bien, c'est pas du luxe, vous voyez. Alors, bon, de ma minuscule petite expérience, honnêtement, déjà, avoir des notes de la Tob, qui est la traduction qui a le plus de notes, BJ et Bible de Jérusalem est très bien aussi, hein, j'ai rien contre, ou la Bible de Hostie Trinquet, très bien aussi. Mais la Tob est celle qui a vraiment de loin le plus de notes. Eh bien, c'est largement suffisant. Voilà, pour la plupart du temps. On lit honnêtement l'introduction du livre biblique qu'on travaille et les notes, et on est déjà très très savant. Enfin, en tout cas, on est sûr de ne pas faire de grosses erreurs. Voilà, mais enfin, on peut faire plus, évidemment. Toujours faire plus. Très bien. Okay. Vous aurez 10 minutes pour poser des questions à la fin, etc. Donc. Alors, une interprétation non individuelle, vous avez vu ça dans le texte. Donc elle repose sur trois fondements. L'interprétation vivante, la tradition vivante de l'Église, l'analogie de la foi et la cohérence des Écritures. Donc la première, c'est la cohérence des Écritures. Donc il y a des versets qui peuvent apparaître franchement antinomiques, enfin qui s'opposent. Par exemple, Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres » et puis dans le même évangile, Jésus dit « devant sa mère » et devant ses frères et sœurs, enfin ses cousins, sa famille, « Mon frère et ma sœur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. » Il dit ça devant sa mère. Donc, c'est fort quand même. Ou alors, non, elle ne peut pas fondre en larmes, enfin bon. Ou alors autre chose aussi, encore plus... par ma parole et par l'avènement de Jésus... Le frère va se monter contre sa sœur, la belle-mère contre la belle-sœur, ça, il n'y a peut-être pas besoin de l'avènement de Jésus pour ça, mais enfin bon. Le fils contre le père, la fille contre la mère, etc. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division, dit Jésus. Oh ben non, alors Jésus m'avait dit qu'il est toujours gentil, alors là il est plus gentil, alors oh, ça change ma religion, bon je vais aller chez les protestants, ils disent la même chose, alors qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, il ne me reste plus que l'islam, j'ai horreur des voiles. Bon, enfin bref. Donc, c'est une vraie contradiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si Jésus dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il nous exhorte à l'amour mutuel, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et donc, ce genre de choses vont se comprendre dans la cohésion, dans la cohérence déjà de l'ensemble des Écritures. On comprend bien, par cette cohérence, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que Dieu n'a jamais poussé à la haine mutuelle. Enfin, qu'au contraire, toute sa stratégie, c'est de mettre en communion avec les uns avec les autres et de la communion avec lui. Donc on ne va pas interpréter à côté cette affaire de division. Il va falloir trouver une interprétation qui soit cohérente avec l'ensemble des Écritures. De même, il y a une cohérence à avoir avec la tradition vivante de l'Église. Je pense par exemple à la liturgie. la liturgie dit quelque chose, nous aide à comprendre les Écritures. Par exemple, dans le texte de l'Ancien Testament, qui est toujours choisi en fonction du Nouveau Testament, de l'Évangile, du dimanche. C'est pas par hasard, derrière il y a des gens qui ont travaillé, puis surtout il y a une tradition longue, ancienne, si vous voulez. Des pères de l'Église, des traditions liturgiques, même d'ailleurs d'Orient et d'Occident, enfin, c'est très riche, c'est pas du tout un truc par hasard. Donc ça aussi, ça va nous aider. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire que pour bien comprendre une réalité de foi, un événement de foi, un élément de la foi, il faut toujours le situer par rapport à l'ensemble de la foi, comme en harmonie avec l'ensemble, comme une phrase mélodique d'une symphonie qu'il faut entendre avec l'ensemble des harmonies d'une symphonie. Voyez. Donc l'analogie de la foi, c'est pour ça que la catéchèse, c'est pas quelque chose qui est à côté des Écritures, c'est nécessaire pour lire les Écritures. C'est en travaillant les différents aspects de la foi que je vais pouvoir interpréter avec justesse les Écritures. Non pas parce qu'on me dira ce qu'il faut penser, mais parce que je comprendrai cette analogie de la foi, cette cohérence de l'ensemble qui permettra de bien accueillir à sa juste place ce que je lis. Ok. Alors, les quatre sens de l'Écriture en 7 minutes. Alors, le sens littéral, c'est ce que j'appelle la pierre de fondation de l'interprétation. Alors, quel est le sens littéral ? Bon. Le sens littéral, c'est ce que l'auteur veut dire. Voilà, c'est tout ça. Donc, c'est pas une interprétation littéraliste ou fondamentaliste. C'est pas juste ce qui est écrit, vous voyez ? C'est ce qu'il veut dire à l'époque où il écrit le texte, c'est ça qu'il veut dire. Donc c'est un sens profond, enfin c'est déjà un sens spirituel, si vous voulez. C'est pas juste le reportage de ce qui s'est passé, vous voyez, c'est pas ça. C'est ce qu'il veut dire. Donc avec des jeux de stylistique, des jeux d'organisation du discours, qui fait qu'une partie va être entrée en dialogue avec d'autres, d'organisation du discours proprement sémitique, avec des structures proprement sémitiques qu'il faut connaître pour du coup comprendre quelle est la pointe du discours, qui n'est pas forcément le dernier point comme on a souvent nous dans notre culture occidentale, mais qui est généralement le point au contraire central. Enfin, donc tout ça, c'est le sens littéral. C'est la pierre de fondation, ben, vous le comprenez vous-même, puisqu'on vient de dire que ce que Dieu veut dire, c'est ce que dit l'auteur. Alors on dirait, bah oui, et alors après, ça sert à quoi ? Alors, le sens pascalien, c'est comme ça que Jean-Paul II le dit, c'est le sens christique, si on veut. En fait, c'est le texte à la lumière de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Alors, c'est vrai, par exemple, bien sûr, des événements de l'Évangile, et ce qui explique, pour une large part, le secret que demande Jésus sur tel ou tel événement qui vient de se passer et qui, manifestement, ne peuvent pas être gardés secrets. Par exemple, la petite fille qui était morte et qu'il ranime. Il dit aux parents, gardez ça secret. Ça va être un peu difficile. Pourquoi il dit ça ? Évidemment, en fait, c'est parce que vous ne comprendrez la portée de ce qui s'est passé qu'après ma mort et ma résurrection dans l'Esprit Saint, quand vous serez dans l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est l'interprétation de ce texte, cet événement de la réanimation de cette petite fille, de la résurrection de cette petite fille, mais à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ et de l'Esprit-Saint, et même aussi de l'Ascension d'ailleurs en fait. C'est encore vrai, bien évidemment, des textes de l'Ancien Testament, où, quand on va lire Job, avec le patronage cet après-midi, on a parlé de... on est tombé sur Job... Je verrai Dieu de mes yeux de chair, je serai debout avec mon corps, et je verrai Dieu avec mes yeux de chair, dit Job après sa mort. Enfin, en parlant de après sa mort. Alors évidemment, quand on lit ça à la lumière de la résurrection du Christ, ben ça nous parle. On comprend que c'est pas une métaphore, que c'est en fait réel, quoi. C'est ça qui, ce vers quoi nous marchons. Et en fait, tout l'Ancien Testament, quand vous lisez les oracles du serviteur souffrant dans Ésaïe, ce n'est pas ses péchés qu'il portait, mais nos péchés qu'il portait. Il n'avait plus figure humaine, etc. Tout ce qu'on dit au Vendredi Saint. Évidemment, à la lumière de l'événement de la Passion, tout à coup, ça prend une dimension vraiment extraordinaire. Et la Passion prend aussi une dimension, du coup, extraordinaire, qui n'est pas lisible sans les oreilles du serviteur souffrant, qui sont nécessaires pour comprendre cet événement-là. Bon, là, j'anticipe déjà un petit peu pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est le sens pascalien, le sens christique. Puis vient le sens moral. Donc rappelez-vous, la dernière fois, je vous parlais d'un rapport à l'écriture qui transforme notre cœur, qui ouvre notre liberté à un discernement, à un agir nouveau. Et ça, toutes les écritures, depuis l'Ancien Testament, enfin depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, annoncent déjà, voilà comment est le cœur d'un homme nouveau, et comment il agit différemment parce qu'il est transformé par le don de l'Esprit et par la parole de Dieu. Et donc, le sens moral, c'est finalement, qu'est-ce que ça veut ? Il arrive ceci, Jésus nous apprend ceci par le livre de Job, eh bien, qu'est-ce que ça m'encourage, qu'est-ce que ça me dit de faire ? Concrètement. Alors, toutes les lettres de saint Paul sont construites comme ça, en deux parties, toutes, avec un basculement. Donc dans l'Épître aux Romains, par exemple, c'est le basculement, c'est le 12e chapitre de Romains. Avant le 12e chapitre, de 1 à 11, c'est une théologie du Christ. Qui est le Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et de 12 à la fin, c'est comment on va vivre maintenant que nous avons rencontré le Christ et qu'il a transformé nos vies. Finalement, notre vie de baptisé, notre vie de prêtre baptisé. C'est quoi être prêtre baptisé? Eh bien, vous commencez par Romains 12 et puis vous lisez la suite. Mais vous ne comprenez Romains 12 et la suite que si vous avez compris Romains 1 à 11. Sinon, vous prenez ça comme des exhortations morales, soit illisibles, soit inatteignables. Enfin, le sens eschatologique, c'est le sens éternel, c'est le sens définitif. C'est le sens des fins dernières. Ça veut dire que nous marchons vers le royaume éternel, dans cette église pérégrinante, et les Écritures nous disent déjà, en quelque sorte, ce qu'est le ciel, et nous le fait vivre aujourd'hui, ici. Il ne faut surtout pas dire, le ciel, on ne sait pas ce que c'est, vous savez, personne n'en est revenu, alors on ne peut rien dire. En fait, toutes les Écritures disent ce qu'est le ciel, et en détail. Voilà, donc il faut lire l'Ancien et le Nouveau Testament aussi dans ce sens eschatologique qui nous explique finalement ce à quoi nous sommes appelés, ce vers quoi nous marchons de façon très explicite. Je viens de citer Job par exemple sur la résurrection de la chair. Notre vie éternelle sera avec un corps de chair, point, c'est tout. Les chrétiens croient ça. Et on est les seuls à croire avec quelques juifs quand même. Voilà, donc ça concerne notre vie future très clairement. Alors, il me reste une minute pour dire à quoi bon tout cela. Vous l'avez compris, c'est au service d'une vraie rencontre avec le Christ dans les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Une vraie rencontre, parce que en lisant le texte pour ce qu'il est, on va découvrir quelque chose qu'on n'attend pas. On est prêt à accueillir quelque chose qu'on n'a pas dans la tête ni dans le cœur, et on est prêt à l'accueillir. Le texte n'est plus le miroir de ce que je sais déjà, le miroir de mes convictions que je rabâche indéfiniment et qui finissent par muser et me donner un goût d'écœurement même, mais je vais à la rencontre de celui qui a quelque chose à me dire et qui me le dit. Et ça transforme vraiment. Voilà, ça change une vie. Et du coup, si cette rencontre est vraiment transformante, c'est de changer une vie, alors j'ai quelque chose à raconter aux autres. Sinon, j'ai rien à dire. Si le Christ n'a pas changé ma vie, j'ai rien à dire aux autres, honnêtement. Enfin, en tant que chrétien, je veux dire, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que, pour moi, Emmaüs, c'est d'abord mettre le peuple de Dieu, c'est-à-dire vous, les aider, vous encourager, et moi le premier, à cette rencontre, pour vivre cette rencontre, vraiment, qu'il se passe quelque chose, et pas seul, en fraternité, que ensemble vous viviez cela, les uns par les autres, réellement, dans la parole, dans la catéchèse, et que du coup vous ayez envie de partager ça aux autres, parce que vous en aurez envie, c'est tout, on ne pourra plus vous arrêter, vous aurez envie de le faire, vous aurez envie d'accueillir les comètes et de leur faire partager votre joie. Et ça, ces comètes, elles vont alors là vous le rendre au centuple, et c'est sur ce tremplin en quelque sorte, à la grâce de Dieu, mais que je compte pour le confluent, vraiment. Alors il reste 10 minutes pour des questions. Soit sur le texte d'écriture, le texte du concile, ce que j'ai pu dire là pendant. Ça peut être des questions d'explication, ça peut être des questions d'approfondissement. ça peut être aussi une réaction de votre part. C'est pas forcément une question formulée, c'est difficile de pouvoir formuler des questions, souvent. Ça peut être, on peut partir d'une réaction et puis j'essaie de voir la question qui est derrière.
Elle est très simple. C'est quoi un agi?
Ah, d'accord.
Voilà. Question très très simple,
effectivement. Question suivante.
Je vais répéter.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire une différence entre l'Ancien Testament où Dieu parle à travers des hommes, donc ça passe quand même à travers un prisme humain, et j'ai l'impression que le Nouveau Testament, c'est Dieu qui parle directement.
Alors ça, c'est parfaitement hérétique. Non, pardon. Ce que nous dit cet inconnu que je ne citerai pas pour pas la gêner, c'est que je citerai. Non, pardon, je plaisante. Je ne devrais pas présenter comme ça. Donc l'idée, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu parle par des hommes, par des événements même très humains. Les enfants, les filles de Lot qui vont avoir des relations sexuelles avec leur père pour assurer une descendance. Enfin, c'est quand même des trucs waouh. Faut s'accrocher au bastingage. Donc c'est aussi la parole de Dieu. Et puis Jésus qui prêche les béatitudes au bord du lac de Capharnaüm par une brise légère. Et donc là, Dieu nous parle vraiment directement parce que Jésus est le Verbe éternel, tandis que Lot, c'est pas le Verbe éternel, c'est un pauvre gars, quoi. Voilà. Comme nous tous. C'est ça, hein. Derrière, c'est que Jésus est le Verbe éternel. Donc, il est la parole, donc ce qu'il nous dit. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Verbe éternel, c'est-à-dire Jésus de Nazareth avant son incarnation, si j'ose dire, c'est lui qui parle dans l'Ancien Testament. C'est la parole, c'est le Verbe qui parle par cette histoire de la Genèse. Et pas moi, pas moi. Comment dirais-je ? Certes, Jésus va pleinement accomplir, bon j'anticipe un peu sur la fois prochaine, mais Jésus va pleinement accomplir cette parole de l'Ancien Testament et va donner des clés qui sont comme attendues par l'Ancien Testament. Par exemple, le serviteur souffrant, pour le monde juif, ça reste quand même une grande énigme. C'est peu travaillé. Bien sûr, ils vont dire que c'est la souffrance d'Israël, mais on voit bien que ça vise quand même le Messie, ces oracles. Donc voilà. Évidemment, avec la passion, tout s'éclaire. Si. Donc c'est très clair que la personne de Jésus et sa personne, son histoire, son corps, moi je dirais même plutôt, est une clé qui va nous faire comprendre l'Ancien Testament. Mais en fait, Jésus n'ajoute rien de nouveau en termes d'enseignement à l'Ancien Testament. Voilà. Dieu est amour, aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, Dieu est tendresse, il nous porte contre sa joue, il nous aime infiniment, tout ça c'est l'Ancien Testament. Tout ça c'est dans le Lévitique, c'est dans l'Osée, c'est dans le chantre de l'amour. Moi, c'est autant l'Ancien Testament que le Nouveau, je dirais presque plus. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament appelle un accomplissement, appelle une réalisation qui va se faire dans la personne de Jésus. Mais si on ne voit que la personne de Jésus sans faire sien l'Ancien Testament, alors on ne comprend pas grand-chose à Jésus, en fait. C'est ça le problème. Vraiment, on ne comprend pas grand-chose. Et Jean-Paul II va même pousser le bouchon plus loin en disant non seulement c'est l'Ancien Testament qu'il faut comprendre, mais c'est le judaïsme de l'époque de Jésus qu'il faut comprendre. Si on n'entre pas dans la judéité de Jésus, nous dit Jean-Paul II, on ne peut pas comprendre Jésus. Donc on ne peut pas comprendre ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est vraiment aussi très fort. Enfin, c'est cohérent, on comprend, mais c'est fort que le pape dise ça. Oui, Sophie.
Une image qui m'avait marquée pendant une retraite, qui illustre bien ça et qui peut peut-être aider. Imaginons que la ligne blanche là, qui soit derrière toi, ce soit la ligne de l'histoire des hommes.
Ouais.
Dieu n'est pas dans l'histoire des hommes. La parole n'est pas dans l'histoire des hommes.
Très bien. Ouais.
Mais Dieu parle de notre place et sa parole
pas mal.
Touche,
embrasse tout. Ouais, très bien. Ouais, c'est super. C'est super. De même que le Créateur porte et saisit toute l'histoire, toute la création, ce Créateur, il est Verbe. C'est le Verbe éternel. Voilà. Avec le Père et l'Esprit, mais non, c'est très juste. Hein, merci.
Le problème, il faut considérer que dans la première partie de l'Ancien Testament,
ouais,
il y avait Dieu qui passait par les autres, et l'homme interprétait à dire ce qu'il qu'il a compris. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu fait homme, que quelqu'un donc, a écrit ce qu'il a vu. C'est vrai que
oui et non.
Des fois, il y a des mauvaises...
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Alors, je répète pour que tout le monde entende bien quand même. Dieu, enfin, vous avez redit ce que Valérie a dit, c'est-à-dire que Dieu parle par des hommes qui interprètent ce que Dieu leur a dit, les prophètes, pour le répéter aux hommes. Donc, il y a une sorte d'intermédiaire, tandis qu'avec Jésus, il n'y a pas d'intermédiaire, puisqu'il est Dieu lui-même. Ça, c'est vraiment une idée que je vais m'employer la semaine prochaine à profondément démolir, pour que vous puissiez vraiment entrer dans une autre... Non, mais c'est important, parce que c'est vraiment très important. Parce que là, vous avez la racine vraiment d'une sorte de... Enfin, c'est pas ce que dit d'abord le Concile en direct. Hein. L'Ancien comme le Nouveau Testament sont inspirés par Dieu et sont parole de Dieu à égalité. Ben oui, mais c'est pas tout à fait ce qu'il dit quand même. Et par ailleurs, l'humanité de Jésus fait tout autant écran en Jésus que dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que Jésus, il est renié par des milliers de personnes qui le croisent, qui voient faire des miracles, qui vivent même avec lui. Il est trahi par son apôtre. Donc on voit bien que l'humanité de Jésus est un véritable écran. Elle est aussi, bien sûr, elle est le vecteur de la parole, mais elle est aussi un écran total. Et donc, de même, les histoires sombres d'Israël peuvent être un écran, ou au contraire, elles peuvent être un vecteur extraordinaire pour manifester la miséricorde de Dieu. Par ailleurs, il est très clair dans l'Ancien Testament, notamment dans le Deutéronome au chapitre 18, vous pouvez aller voir la définition du prophète, c'est celui qui entend la parole de Dieu pour la dire. Justement, le vrai prophète n'est pas celui qui interprète la parole de Dieu qui lui est dite pour dire ce qui lui semble bon de dire. Il dit la parole exactement comme il l'a entendu, sans ajouter une lettre, ni une virgule, ni rien. Et donc le vrai prophète, il est transmetteur de la parole telle que Dieu lui a dite, et s'il est un vrai prophète, cette parole se réalisera. C'est ça le critère. Donc il n'y a pas de filtre. Alors après, cette parole, elle est entendue ou rejetée hein, par Israël ou par ceux qui l'entendent. Mais voilà. Donc non, encore une fois, je crois que et le texte et l'histoire d'Israël font une continuité avec, j'allais dire, à la fois la révélation et l'opacité du corps du Christ et de son histoire. Dieu se révèle dans la nuée, il est à la fois lumière et ténèbres, toujours. Et donc c'est dans cette nuée, c'est cette nuée qui est ténèbres et lumière qui nous conduit. Voilà. Mais ça, ben là, c'est vraiment pour la semaine prochaine. Il y a encore fort à dire pour la semaine prochaine, il y a des réserves. Mais c'est très important. Enfin, là, vous voyez bien, Valérie, comme vous touchez à un point absolument capital. J'ai l'air de prendre ça un petit peu à la légère, mais... En fait, c'est normal que, enfin, que vous posez ces questions-là, ça veut dire que vous avez déjà bien réfléchi à la question. Et surtout, c'est un point central, j'allais dire aussi des fraternités Emmaüs, parce que la clé, ça va être en fraternité de pouvoir lire Ancien et Nouveau Testament en dialogue. Parce que c'est là que Dieu va se révéler, la rencontre va se jouer là. Et donc il faut que tout le monde ait pu enfin, approfondir un peu cette question-là, si vous voulez, et être à l'aise, ou au moins progresser dans ce sens-là, pour comprendre avec son intelligence et avec son cœur aussi, pourquoi on fait ça. Ce n'est pas une lubie philo-judéique du prêtre parisien, c'est la réalité de ce que porte le Concile et la Bible elle-même. Donc merci pour ces deux questions importantes. Il reste encore 2 minutes pour une question, 3 minutes même, oui.
C'était sur le point précédent, c'était quoi le titre précédent, donc pour égaler l'interprétation de mon objet.
Oui.
Vous avez dit qu'il y avait 3 éléments.
Oui.
J'ai pas compris la différence entre le premier et le troisième, alors je me rappelle plus le titre.
Alors il y a la tradition vivante de l'Église. L'analogie de la foi et la cohérence des Écritures.
Entre l'analogie de la foi et la cohérence des Écritures,
ah oui, ah bah très bien, c'est très facile. Donc l'harmonie des Écritures, c'est de qu'un texte ne saurait s'opposer à l'ensemble des Écritures, si vous voulez. Ça, c'est l'harmonie des Écritures.
C'est cohérence.
Par exemple, le coup de « je suis pas souvenu de semer la peine ». Ça, c'est la cohérence des Écritures. C'est qu'il y a un même auteur qui a écrit l'ensemble de la Bible, Ce même auteur est intelligent et cohérent. Voilà. Donc il y a une cohésion à l'ensemble de l'œuvre, si vous voulez. Même si ça passe par des épisodes historiques les plus incohérents qui soient, ou les plus invraisemblables qui soient. Ce qui est le cas, si vous voulez, d'Israël. Mais un peu comme, je reprends l'image un peu de Sophie, c'est que la montagne peut avoir toutes sortes d'aspérités, mais la montagne fait l'unité de l'ensemble de ces aspérités et de ce chaos, si vous voulez. Donc à la surface, c'est un chaos, mais l'ensemble est porté par une cohérence. Donc ça, c'est parce qu'il y a un seul auteur pour l'ensemble des Écritures. Alors l'analogie de la foi, c'est lié, bien sûr, mais c'est la cohérence du contenu de foi, de la cohérence de la catéchèse, pour dire autrement, ou du credo. L'Immaculée Conception fait système avec les sacrements de l'Église, qui font système avec la mort et la résurrection du Christ, qui font système avec un Dieu unique créateur qui a créé les choses ex nihilo, etc., etc. On ne peut pas comprendre, par exemple, j'ai vécu très récemment avec des enfants de Saint-Joseph, pour leur expliquer, alors il y a des enfants qui me disent « Ah, la résurrection, c'est pas possible, etc., on peut pas ressusciter, etc. Bon. » J'ai pas répondu à cette question-là, j'ai traité la question du créateur. Ça veut dire quoi, créer? Pour beaucoup d'enfants, c'était créer à partir de quelque chose. Pour certains, j'étais surpris d'ailleurs, la moitié, c'était créer à partir de rien. Donc là, ils avaient compris la création ex nihilo. Et donc j'ai appuyé là-dessus et j'ai expliqué ça. Quand on comprend que Dieu a créé de rien, on peut parfaitement comprendre du coup que Dieu puisse ressusciter. Mais la racine, en quelque sorte, intellectuelle, c'est ça. Donc il y a une cohérence du Dieu créateur et du Dieu qui ressuscite dans le corps de Jésus. Ça, c'est l'analogie de la foi. C'est la cohésion du contenu catéchétique, si vous voulez. Tandis que l'autre, c'est la cohérence de l'ensemble des textes écrits de la Bible. Alors c'est lié, bien sûr, mais c'est quand même distinct. Eh bien, c'est l'heure. C'est l'heure de dodo. Alors je vous propose de nous tourner vers Notre-Dame. D'abord, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention, votre indulgence pour mes petites pitreries, mais c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai besoin de pouvoir parler comme ça. Et puis je vous propose de nous tourner vers Notre-Dame, intérieurement, parce que je ne crois pas qu'il y ait Notre-Dame quelque part. Enfin, il y a la Trinité là, donc Notre-Dame n'est pas loin. Elle est là, elle est au milieu là, elle est là. Elle est là, très bien. Je vous salue.